Le psaume 143, à partir du verset 1, le psaume 143, on est dans un moment particulier de la vie de David. En effet, tout va mal. Il est enfermé dans une grotte parce que le roi qui doit servir, en plus son beau-père, essaie de lui couper la tête. Sa femme l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné, tout va bien, tout est parfait. Et alors qu'il est dans cette grotte, alors qu'il a reçu même l'onction pour être roi, alors qu'il aurait pu régler le compte au premier roi pour dire comme ça je prends la place du roi, mais il est resté attaché à la parole de Dieu. Jusqu'au bout, et parce qu'il l'a fait, Dieu a su intervenir. Et dans le psaume 143, nous voyons un moment, une prière. Nous allons la lire ensemble, examiner jusque quelques instants. Le texte dit « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Les premiers versets, David exprime clairement à qui il adresse sa prière. Vous savez, parfois on peut aller chercher des solutions à droite et à gauche au lieu d'aller directement à Dieu. On peut chercher des solutions autour de nous, des personnes peut-être même influentes, mais ce n'est pas pour autant qu'on a une solution. Et là, David, il se retrouve tout seul dans une grotte, abandonné par tout le monde, mais certainement pas par Dieu. Et il en est conscient, parce que s'il pensait être abandonné de Dieu, à quoi sert-il de prier ? Non ? À quoi sert-il de prier ? Ça veut dire qu'on est devenu fou si on parle tout seul. En plus, il n'était pas dans une grotte pour avoir de la fraîcheur. Il n'avait pas problème de canicule à ce moment-là. Mais la situation était telle que le seul lieu qui lui était resté de refuge, c'était une grotte. Combien de fois dans notre vie, nous nous retrouvons que notre refuge, c'est quelque chose qui est inconfortable. Et pourtant, il n'y a que là qu'en réalité, on se sent, entre guillemets, en sécurité. Et on se renferme sur nous-mêmes. Et Dieu merci, David, il n'est pas resté renfermé sur lui-même, même si on comprend bien par ses mots qu'à un moment, il a frôlé bien la dépression. Non ? Mais il a trouvé la force d'élever sa voix à Dieu. Tout conscient aussi que ce n'est pas par ses propres mérites qu'il pouvait demander à Dieu quoi que ce soit. D'ailleurs, il le dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Qu'est-ce que je peux aller dire à Dieu ? Seigneur, je mérite ceci, je mérite cela, parce que j'ai fait ceci pour toi, parce que j'ai fait ceci pour cette raison, pour l'autre raison. Vous savez, parfois on essaie d'acheter Dieu, mais Dieu ne se laisse pas acheter. Il n'y a pas de prix qu'on puisse acheter Dieu. Et David, il avait compris. Et d'ailleurs, il avait aussi compris qu'il est un Dieu de fidélité et de justice. Et je dirais, comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, qu'on n'oublie jamais qu'on s'approche de Dieu, le Dieu de la vérité, et qu'il nous demande d'être vrai. Qu'est-ce que je peux cacher à Dieu ? Peut-on cacher quelque chose à Dieu ? On peut cacher à nos semblables. Hein ? Imaginez, on se retrouve, comment tu vas ? Ben super ! Et au fond de moi, je suis en rondelle. Non ? On connaît ça. Hein ? Comment tu vas ? Ben c'est merveilleux, on ne peut pas mieux. Hein, si tu savais. Avec Dieu, non, ça ne marche pas. Parce qu'il est au plus profond de notre cœur. Je crois qu'encore ce soir, si nous sommes là, devant le Dieu de vérité, on se doit d'être vrai. Parce qu'autrement, on n'obtient rien du tout. David définit aussi les terrains de combat. À partir du verset 3 au verset 5, il dit « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes ces œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. En réalité, il se rend compte qu'il y a des combats extérieurs, non ? Mais il y a des combats intérieurs. Il parle des ennemis, mais il parle aussi de son âme. Alors, est-ce qu'on a les deux conflits ouverts ? Est-ce qu'il y a un seul terrain de conflit pour nous ce soir ? Ou peut-être s'il n'y a pas de conflit, tant mieux. Alléluia ! Ça fait du bien. Mais je crois que David, il nous ressemblait et qu'en réalité, il avait considéré qu'il y avait des terrains de combat extérieurs et je dirais que c'est les terrains de la vie, c'est le terrain des relations, c'est le terrain du travail, de la famille, de la santé. Mais il y avait l'intérieur, notre esprit, notre vie spirituelle, nos engagements avec Dieu, notre âme, les émotions, notre sanctification, c'est un terrain de combat ça, non ? Où tout va bien. Je crois que si c'était simple, ça serait pas mal. Mais en réalité, il y a un combat. Et après, notre cœur, il parle du cœur, des sentiments, les sentiments envers Dieu, envers nos frères et sœurs, envers nos ennemis, puisqu'il nous dit de prier pour nos ennemis. Ah Seigneur, je veux bien prier pour tout le monde, mais pas pour lui. Et pourtant, c'est pour lui que Dieu te demande de prier. Ah Seigneur, c'est dur. C'est dur. Et pourtant, Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, en bas de la croix, ah, ben si tu es, descends, viens, règle le problème, montre-nous, et après on va croire en toi. Ça n'a pas dû être facile pour Jésus, comme ce n'est pas facile pour nous. C'est pour ça qu'il nous comprend très bien. C'est compliqué de voir... Prier pour quelqu'un qui, en effet, engage un combat contre nous. Et après, il dit, « Ah, je me souviens des jours d'autrefois. » Dieu soit béni parce qu'il nous permet parfois d'avoir un retour en arrière dans la mémoire. Il y a des choses qu'on se rappelle d'un coup ou que quelqu'un nous rappelle. Et là, à partir de là, ça nous ramène à nouveau à retrouver la raison, un peu comme le fils prodigue. Qui se rappelait que dans la maison de son père, il ne manquait de rien. Et suite à ce moment de rappel, il prend une décision et il dit en réalité qu'il va se lever et il va aller vers son père. Et David dira, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Mais le fils prodigue, lui, il aurait voulu manger ce qu'il mangeait, les pourceaux. Ça doit être bon, hein ? Vous avez déjà goûté les carouges ? Jamais ? Oui ? C'est bon, Sylviane ? Ouais, ça dépend. Hein. On doit être bien affamé. Hein. Moi, je n'ai pas le même souvenir. Ça va, les premiers deux coups, où on mord dedans, on se dit « voilà, ouais ». Mais après, ça donne des aigreurs d'estomac. C'est un chocolat amer. Hein. Pour avoir envie de manger ça qui était destiné au cochon, c'est qu'il avait dû toucher le fond. Mais à un moment, Dieu lui rappelle. Est-ce qu'il y a parfois des choses que Dieu vient remettre encore une fois dans notre mémoire? Souviens-toi. Souviens-toi de mon amour. Souviens-toi de ma grâce. Souviens-toi de la guérison. Souviens-toi de la consolation. Souviens-toi de comment je suis venu te chercher là au milieu de la boue. Souviens-toi dans quelles conditions tu étais. Souviens-toi. J'ai eu au téléphone hier un frère qui m'appelait Normandie. Cette année a été tragique pour lui, difficile, compliquée. Première chose, ils ont trouvé un cancer à un œil à son épouse. Ils ont fait une batterie d'examens, une batterie de traitements, et finalement, c'est disparu. Alléluia! Quelques mois plus tard, ailleurs. Et là, elle a perdu 20, 25 kilos. Elle était la peau sur les os. Et ce frère, il m'a appelé. Moi, je sais, j'ai eu une promesse du Seigneur. Au début de ma conversion, je ne lâche pas prise. Et hier, il m'appelle, il me dit, tout a disparu. Et moi, je crois qu'il y a des moments dans notre vie spirituelle où Dieu nous rappelle les promesses, parce que les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Et si nous, on a des problèmes de mémoire, Dieu non. Le Saint-Esprit non plus. Vous savez, c'est comme ces moments-là avec le déménagement, on a tout mis dans les cartons, on est arrivé ici, mais une fois qu'on est arrivé ici, il fallait commencer à sortir les affaires des cartons. Et des fois, c'est compliqué parce que vous retrouvez des photos qui vous font prendre conscience que vous avez changé. Alors, si on était des bouteilles de vin, on dirait qu'on s'est bonifié. Mais comme ce n'est pas le cas, on se dit, j'ai pris un coup de vieux. Et c'est là qu'on fait la réflexion, on dit, qu'est-ce que je fais? Je la mets tout en bas du tiroir pour qu'on ne la regarde pas. Ou j'appelle quelqu'un, je dis, tu te souviens? Et là, on se prend une deuxième baffe. Le pire, c'est si vous le dites aux enfants. Alors là, waouh, papa, t'étais jeune là. Ok, c'est bon. Il y a des moments où Dieu nous rappelle les promesses qu'il nous a faites et que nous, peut-être, on a mis de côté parce qu'on pensait que c'était juste des paroles. Dieu ne parle pas en vain. Sa parole ne parle pas en vain. Les promesses qui sont dans sa parole, elles sont pour nous. Les guérisons, elles sont pour nous. La grâce, elle est pour nous. Amen. Les miracles, c'est pour nous. Moi, je veux bien et je l'entends bien que les chrétiens de la première église, ils ont vécu des choses incroyables. Alléluia. Mais je crois qu'elles sont aussi pour nous. Et il n'est pas question de vivre dans une forme de jalousie en disant ah, c'était mieux avant. Mais il est question pour nous de rentrer dans une autre phase qui est une question de relation avec Dieu. D'ailleurs, je voudrais terminer avec ça. Des versets 7 à 12, pour moi, il y a 7 points très rapides. Première chose, David met une question de priorité. Verset 7. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Il y a une priorité dans ma vie. Ce n'est pas tout le reste, c'est ma relation avec Dieu. Et quand je soigne cette priorité avec Dieu, regardez ce qui se passe. Verset 8. Dieu est pour nous une boussole. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Est-ce qu'on a besoin de la direction de Dieu? Peut-être ce soir, la raison de votre présence là, c'est demander à Dieu une direction pour votre vie. Différents points de la vie, ça peut être dans les sentiments, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être... peu importe. Chercher, parce que quand Dieu donne une direction, c'est toujours la bonne. Et David, il avait compris. Après, il a aussi compris que Dieu est un rempart et un bouclier. Il dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Qui a besoin du refuge du Seigneur ce soir? Eh bien, c'est toujours la même adresse. C'est auprès de Dieu. Et il continue, parce qu'il est un guide sur le chemin de la sagesse. Enseigne-moi à faire... Vous avez la même version que moi? Enseigne-moi à faire A. Ah. Car tu es mon Dieu. Moi, parfois, on est tenté de dire, Seigneur, fais ce que je te dis. Je connais bien, Seigneur. Moi, je sais, Seigneur. Je suis moderne, je suis connecté, j'ai Facebook, j'ai tout ce que tu veux. Je sais maintenant, Seigneur. Non, tu sais rien. Éteins tout ça. rentre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, connecte-toi au ciel, déconnecte-toi de la terre et tu verras ce que Dieu va te dire. Et parfois, tu seras étonné. Étonné de ce que Dieu va te dire. C'est directement le contraire de ce que tu pensais. Ah ben Seigneur, moi je croyais que, tu as mal cru. Ah je pensais que, tu as mal pensé. D'ailleurs, il le dit. Ma pensée n'est pas votre pensée. Elle est bien plus élevée. Il est aussi pour nous un compagnon de voyage. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Qui a besoin ce soir de sentir la présence du Seigneur à côté de lui? Quelle qu'il soit la difficulté, quel qu'il soit le défi, mon frère, ma sœur, je voudrais vous te dire, cherche la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Une assurance tout risque. Ah, c'est beau ça. À cause de ton nom, rends-moi la vie dont ta justice retire mon âme de la détresse. Amen. Meilleure assurance que cela. J'aime dire que sur la terre, on assure pour beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? Il y a tout type d'assurance. Et il y a même l'assurance sur la vie. C'est vrai? Mais qui fonctionne que quand vous êtes mort. Étrange, et c'est même pas vous qui en profitez, c'est les autres. Alors qu'avec Dieu, l'assurance est pour moi-même, pour mon couple, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. Non? Qui veut de cette assurance? Qui a besoin de cette assurance de dire, Seigneur, moi ce soir, je suis là parce que tu es là. Moi je crois qu'on a du plaisir d'être ensemble, mais je vais vous le dire sincèrement. Ça peut aller une fois, ça peut aller deux fois, mais je ne crois pas qu'on se voit 3-4 fois par semaine juste pour le plaisir. On est là parce que Dieu est là. Et je vais vous dire, la semaine dernière, je suis descendu à 2h du matin. Je n'arrivais pas à dormir, je suis descendu. Vous savez quoi? J'ai passé un moment incroyable. J'ai pris ma guitare, je ne dérangeais personne. Et j'ai loué le Seigneur, je me suis fait du bien. Et si vous avez les clés, venez, il n'y a pas de souci, on risque de se croiser à 2h du matin. Mais même chez vous, Dieu est là. Dans votre chambre, Dieu est là. Dans votre bureau, Dieu est là. Dans votre voiture, Dieu est là. Moi, j'ai passé des moments incroyables avec Dieu à moins 30, dans un congélateur. Même là, Dieu est présent. Ah, je peux vous dire des choses incroyables. Et je voudrais terminer par cela. Avec Dieu, on a une délivrance certaine. Parce qu'il dit dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de ma âme, car je suis ton serviteur. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous avez une identité en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous allons à Dieu, n'allons pas comme des mendiants. Excusez-moi ça. C'est notre Père. Et je crois que mon Papa du ciel, il me donne ce qu'il y a de meilleur. Même si moi je ne sais pas. Comment il va faire, c'est pas important. Je mets ma confiance en Dieu. Je dis, Seigneur, je me confie en toi. Et tu fais que mes ennemis deviennent mes amis. Que ceux avec qui peut-être on s'est battu, ben on les retrouve à l'église et on se retrouve ensemble. Je disais à quelqu'un cette semaine, d'une personne, une famille, c'était une catastrophe. Ils se battaient à coups de poing entre père et enfant. Mais à coups de poing. Jusqu'au jour où Dieu est rentré dans cette maison. Aujourd'hui, ils vont ensemble à l'église. C'est mieux, hein? C'est magnifique. Le climat est différent. On va prier ensemble. Mais est-ce que nous sommes bien convaincus? Est-ce qu'on a pris cette certitude dans notre cœur de qui nous prions? Est-ce qu'on est conscient? Oui, c'est Dieu. Mais c'est avant tout notre Père. Et connaît exactement ce qu'on a besoin ce soir. Quelle qu'il soit la difficulté, quelle qu'il soit l'épreuve, faites confiance au Seigneur. Amen.